Vous écoutez RFI, les midis à Paris, 11h en temps universel. Le journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. À la une, les nouvelles autorités syriennes annoncent la fin des opérations militaires dans la région Alaouite après des violences inédites ces derniers jours. Des centaines de civils de la minorité chiite y ont été tués. Nous entendrons un témoignage bouleversant dès le début de ce journal. Alors que les Ukrainiens vont tenter de renouer le dialogue avec l'administration Trump en Arabie Saoudite, les Européens avancent sur le dossier de la défense. L'Union doit s'organiser face au rapprochement américano-russe. En France, les partis déclinent leurs pistes pour financer un réarmement. Et puis nous évoquerons ce procès inédit en France qui s'ouvre aujourd'hui, celui d'une professeure accusée d'avoir harcelé une collégienne. La fillette de 11 ans s'est suicidée après avoir changé d'établissement. En Syrie, les autorités annoncent la fin des opérations militaires dans la région côtière alaouite. L'ordre est rétabli selon le ministère de la Défense. Pendant plusieurs jours, des affrontements entre fidèles de l'ancien régime et nouvelles autorités ont été particulièrement intenses près de Tartous et de Latakié. Une flambée de violence sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad qui a fait de très nombreuses victimes civiles. Le bilan est difficile à établir, mais près de 1000 civils alaouites, la minorité chiite dont est issu l'ancien dictateur, ont perdu la vie selon l'ONG l'OSDH. Ces attaques semblent être le fait de milices étrangères renforcées par la frange la plus radicale des islamistes du HTS désormais au pouvoir. Écoutez le témoignage poignant d'une mère du village de Banias qui a perdu deux de ses enfants dans ces massacres. Un témoignage recueilli par notre correspondant en Syrie, Mohamed Erami.
Elle se demande pourquoi son fils a été tué. Cette femme d'une soixantaine d'années, qui a souhaité garder l'anonymat, habite la ville de Banias, située entre les gouvernorats de Latakié et de Tartous. Elle assure que sa famille n'a aucun lien avec la politique et raconte l'assassinat de ses deux fils par les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien.
Oui, mes enfants ont été tués, mais je ne demande pas que l'on tue ceux qui les ont tués, car Dieu existe et c'est lui qui réglera les comptes entre moi et ses assassins. Je n'accepte pas qu'on tue les enfants et les femmes comme ils l'ont fait. C'est un crime inacceptable. Nous sommes dans un pays islamique et ce qui se passe est interdit. Il y a même des familles qui ont dû quitter leur maison et aujourd'hui, ils trouvent difficilement à boire et à manger.
Elle décrit leur isolement total, ils vivent sans électricité et avec très peu de réseau internet depuis 3 jours. Elle affirme qu'il s'agit d'une coupure mise en place volontairement par les nouvelles autorités et appelle le monde à agir.
Toutes les nuits, nous entendons des cris et nous apprenons qu'il y a de nouveaux morts. Nous avons l'impression que nous allons mourir à notre tour. Ma tension artérielle est élevée à cause des massacres dont j'ai été témoin. Les gens meurent alors qu'ils n'ont rien fait de mal et ne sont coupables de rien. Le régime précédent a commis de nombreux crimes et ce gouvernement fait la même chose. Il tue même des hommes âgés.
Après plusieurs jours d'affrontements, le gouvernement syrien a reconnu que des violations individuelles avaient lieu lors de combats dans les villes côtières, promettant de tenir pour responsables tous ceux qui ont commis des exactions contre les civils. Mohamed Erami, Damas, RFI.
C'est en Arabie Saoudite une nouvelle fois que l'avenir de l'Ukraine se joue après le rapprochement américano-russe spectaculaire mi-février. Volodymyr Zelensky est à son tour dans le royaume aujourd'hui. Il doit rencontrer le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman avant des discussions entre son équipe et une délégation américaine demain. Première réunion depuis la prise à partie du président ukrainien dans le bureau ovale par Donald Trump. L'Europe, elle, tente de se coordonner, d'afficher un front commun face aux cavaliers seuls des Américains et de relancer ses programmes de défense. En France, les pistes pour réinvestir dans l'armée sont nombreuses. Victorien Villaume nous a rejoint pour en parler. Bonjour Victorien.
Bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous.
Comme on pouvait s'y attendre, la gauche et la droite n'ont pas du tout les mêmes idées sur le sujet.
Oui, le plus frappant, c'est le sujet des impôts, Karine. Alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, a immédiatement écarté des augmentations d'impôts, la gauche souhaite au contraire qu'on fasse contribuer les ultra-riches. Le patron du PS, Olivier Faure, m'a rappelé ces derniers temps sur les plateaux que l'ancien président américain Franklin Roosevelt à l'époque avait eu, je cite, le courage de recourir à l'impôt pour financer une économie de guerre.
Autre idée qui fait débat dans la classe politique, Victorien, repousser l'âge de départ à la retraite.
Oui, depuis 2 semaines, il y a des discussions hein, tous les jeudis sur le financement des retraites. La gauche aimerait qu'on retourne à un âge de départ de 62 ans contre 64 aujourd'hui. Mais désormais, la France cherche des moyens d'augmenter ses dépenses de défense. Alors à droite, on en profite pour affirmer que ces discussions n'ont plus lieu d'être et qu'il faut au contraire travailler plus longtemps. Nous n'avons pas à sacrifier notre régime de retraite pour des dépenses militaires, rétorque-t-on à gauche.
Mais Victorien, il n'y a pas seulement un clivage gauche-droite, par exemple sur le sujet des avoirs russes gelés par l'Union européenne.
Oui, certains dans la classe politique française aimeraient qu'on utilise ces avoirs russes gelés, ça représente quand même 210 milliards d'euros au total, et c'est intéressant parce que si le gouvernement, si Emmanuel Macron s'y refuse pour l'instant pour des raisons juridiques, des leaders du camp présidentiel, comme Gabriel Attal, sont pour, tout comme des responsables politiques de gauche, tels que Raphaël Glucksmann. Alors ces débats, Karine, sur le financement de la défense ne font que commencer. Ils pourraient s'étaler sur 2 mois d'après le Premier ministre François Bayrou. Dès cette semaine, jeudi, le ministre des Armées recevra les présidents des groupes parlementaires et puis une réunion inédite va se dérouler le 20 mars dans 10 jours. Les ministres de l'économie et des armées recevront entre autres des banquiers et des assureurs.
Le débat va donc se poursuivre. Victorien Villaume du service politique d'RFI. Toujours en France, c'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui, celui d'une enseignante accusée de harcèlement moral. Elle comparaît devant le tribunal correctionnel de Pontoise en région parisienne. Evaël avait mis fin à ses jours en 2019. Sa professeure de français est accusée d'avoir humilié régulièrement cette collégienne de 11 ans devant sa classe. Depuis quelque temps, les témoignages se multiplient, même si moins de 10% des affaires traitées concernent le harcèlement d'enseignants à élèves. Laurence Théo a recueilli les témoignages de Stéphanie, dont le fils Mathis a été harcelé par un professeur de maths.
Plusieurs signes alertent Stéphanie. À chaque fois que son fils Mathis rentre d'une journée où il a eu cours de mathématiques, il n'est pas comme les autres jours. Le jeune garçon, si vivant d'habitude, se referme sur lui-même.
Je vois son comportement, je vois sa tristesse dans le regard. Plus d'une fois, il a pleuré.
Autre indice, le niveau scolaire du collégien en classe de 3e s'effondre alors qu'il a toujours été un bon élève. Et ce n'est pas par manque de travail. À force de questionner son fils, Stéphanie découvre que Mathis est harcelé par son professeur de mathématiques.
Ce professeur l'a tout le temps humilié avec des mots, des comportements. Vous voyez, t'es pas capable, c'est pas la peine de lever les mains. Alors à chaque fois, c'est lui, Mathis, baisse ta main. C'est bon, on a compris. Ou lui balancer les stylos sur la tête aussi, ou il le met dans un coin au fond de la classe.
L'enseignant rabaisse constamment le jeune élève et toujours devant toute la classe.
Il faisait comprendre sous forme d'humiliation devant les autres élèves en disant « bon, bah, de toute façon, t'es pas capable. Il faut qu'il y pense à aller chercher du travail. Bah, mon fils n'avait que 13 ans. »
Comment Mathis l'a-t-il ressenti ?
Ça l'a beaucoup affecté, ça l'a beaucoup attristé. À certains moments, il pensait réellement d'abandonner, de suivre les conseils du prof.
Mathis perd peu à peu confiance en lui, mais il ne veut pas que sa mère intervienne auprès de l'établissement.
Mathis a essayé de me dissuader. Il me dit « Maman, surtout, n'y va pas, tu ne fais qu'empirer des problèmes. » Il n'avait pas des représailles du prof, d'ailleurs, il en a eu.
Et Stéphanie hésitera à le faire comme de nombreux parents, comme l'explique Nora Tirane de l'association Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire.
Il y a la peur des parents, parce qu'ils nous disent « On a besoin d'aide et en même temps, j'ai peur que l'institution se retourne contre nous, que le professeur soit convoqué ou nous convoque en tant que parents et qu'il y ait des représailles vis-à-vis de notre enfant, c'est encore un tabou aujourd'hui en France. En fait, pour eux, c'est le sentiment de s'attaquer à l'institution.
On apprend à Stéphanie qu'une enseignante est jugée ce lundi parce qu'elle a harcelé une petite fille de 11 ans qui a mis fin à ses jours.
Je comprends ces enfants-là qui vivent dans le malade total. Là. Oui, la souffrance peut faire peut-être réagir à ce niveau-là, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance que mon fils m'en parle, parce que ça aurait pu être aussi également mon fils.
Sollicité, Mathis n'a pas souhaité s'exprimer sur le harcèlement qu'il a subi. Il a changé d'établissement scolaire et poursuit aujourd'hui ses études en internat.
C'était le reportage de Laurence Théo et puis un mot de Roumanie où les partisans de Calin Georgescu ont violemment contesté la décision de la commission électorale. Des heurts les ont opposés à la gendarmerie. Ils ont tenté de pénétrer à l'intérieur de l'instance électorale. Sa candidature pour la présidentielle dans 2 mois a été rejetée pour avoir enfreint les règles démocratiques. Après de fortes suspicions d'ingérence russe l'an dernier, le scrutin avait été annulé. Calin Georgescu était alors en tête. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.